Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter pendant une heure. Un invité revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Riyad Satouf. Bonjour.
Bonjour, oui.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Journée particulière, Zoé Varier, sur France Inter.
Riyad Satouf, vous êtes auteur de bande dessinée, réalisateur de films, et moi je trouvais que ça allait pas du tout de commencer cette émission comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Que vous étiez blond quand vous étiez enfant, que maintenant vous n'êtes plus blond du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre?
Mais que je suis un passionné de bande dessinée et des livres et qui s'est battu de très nombreuses années pour réussir à en faire et que je suis bien content de que vous disiez tout ce que je suis avant parce que j'ai eu du mal à devenir.
Alors on va voir justement comment vous l'êtes devenu parce que vous avez choisi comme journée particulière le 7 juin 2002.
Oui.
Et ce jour-là, Riyad Satouf, vous avez signé votre premier contrat d'auteur complet, c'est-à-dire dessin et scénario, c'est
ça ? Exactement. J'ai choisi cette journée, tout à fait.
Les bandes dessinées. Première partie, un moyen d'expression. Bande dessinée. En effet, il suffit d'ouvrir un journal de la presse adulte ou de la presse enfantine pour y trouver ces courtes séquences dessinées. Comme le cinéma, la bande dessinée a une histoire. Elle a ses classiques. Depuis quand ?
1895, le bébé jaune de Hautco.
1896, Pim Pam Poum en France.
1905, Bécassine de Pinchon.
1907, Les Pieds Nickelés.
1925, Zig et Puce de Alain Saint-Augan.
1929, Tarzan, Terry et les Pirates, Tintin.
1930,
Plonk. Riyad Satouf. Est-ce que vous imaginiez ce 7 juin 2002 que votre nom allait s'inscrire dans l'histoire de la bande dessinée à côté de tous ces noms prestigieux qu'on vient d'entendre ?
Non, non, absolument pas. Mais je ne sais pas si mon nom est inscrit à côté de ces noms déjà. Mais c'est vrai que j'ai pendant des années désiré faire des livres. Enfin, des années, des dizaines d'années, parce que j'ai eu envie de faire des livres à partir du moment où j'ai su à peu près lire. Et j'attendais ce moment où j'allais pouvoir être admis dans un club ou une confrérie, dans la confrérie de ceux qui font des livres.
Et ce 7 juin 2002, c'est ça qui se passe ? C'est que vous avez l'impression que vous êtes enfin accepté dans la confrérie parce que jusqu'à présent, tous vos scénarios avaient été... ça avait été plutôt compliqué pour vous ?
Non, oui, c'était un long processus. C'est que j'avais écrit de très nombreux scénarios que j'avais envoyé à de très nombreux éditeurs et c'était perpétuellement refusé. Et j'en avais envoyé un aux éditions d'Argo qui s'appelait Les pauvres aventures de Jérémy, qui racontait les aventures d'un type un peu minable qui travaillait dans le jeu vidéo, qui avait des problèmes sentimentaux, etc. C'était l'histoire du quotidien à Paris, un peu vraiment un ras du bitume, un petit peu comme ça, et ça avait été refusé deux fois par Dargaud, justement. Et j'étais en atelier avec Christophe Blain et Johan Sfar, et donc moi je me disais, je suis en atelier avec eux, peut-être qu'ils vont me pistonner pour que je réussisse à rentrer. En fait, ça n'avait absolument pas marché du tout. Et il y avait un éditeur légendaire qui était en pré-retraite chez Dargaud et qui s'appelait Guy Vidal, c'était un ancien rédacteur en chef de Pilote. Et il est tombé sur mon storyboard,
voilà,
qui traînait sur un bureau. Je n'ai jamais vraiment su exactement comment, mais il est tombé dessus et il l'a lu et ça l'a fait marrer. Et il m'a appelé et il m'a dit, je me rappellerai toujours de son compte de téléphone, il a dit, parce qu'il était fumeur, donc il a une grosse voix, il a dit, j'ai lu votre truc, là c'est marrant ça. Le gars qui a toujours envie de... qui regarde les nanas, là, ça m'a bien plu, ça, faut qu'on se voit, ça. Donc ensuite, il m'a dit qu'il voulait en lire plus, donc j'ai continué à écrire le scénario jusqu'à peu près la page 35-40. Et là, il m'a dit après que ça lui plaisait à fond et que c'était bon, on signait un contrat, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, à l'époque, voilà, je gagnais très très mal ma vie. Je vivais dans une toute petite chambre qui était au fond d'une cour, boulevard Saint-Marcel, au 17 boulevard Saint-Marcel, pour être précis.
Une petite chambre de bonne et,
oui, c'était à côté d'une loge de concierge. En fait, c'était à côté de la concierge, ma voisine était la concierge. Et donc, c'est aussi la promesse que j'allais vivre mieux de mon travail.
Parce que là, vous n'aviez pas un RAD, c'est-à-dire en 2002, vous...
Non, j'étais vraiment, j'avais pas d'argent du tout, j'avais aucune vie sentimentale, pas d'argent. Donc j'étais parfaitement prêt pour travailler tout le temps, en fait. C'est ce que je faisais tout le temps. J'étais comme dans une petite cellule à dessiner en permanence, à essayer des milliards de trucs et à essayer de faire des
livres.
Vous
ne sortiez pas rien?
Je ne sortais jamais, non.
Pas de nana?
Pas de petite amie, très peu d'amis, en fait, ils étaient d'ailleurs dans la même condition que moi, ils n'avaient pas d'argent, donc on se voyait, on buvait des cafés allongés, je me rappelle, pour pouvoir dormir.
Et que ça dure plus longtemps.
Voilà, exactement, que ça dure plus longtemps.
C'était un peu tristouille, non?
Bon, c'était tristounet, mais c'était aussi enthousiasmant, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement de responsabilité d'aucune sorte, en fait. Donc tous les meilleurs trucs étaient à venir ou à ne pas venir, mais il n'y avait pas de...
Sauf voilà. Qu'à l'époque, vous ne vous disiez pas ça, que c'était à venir.
Ben non,
vous
non,
deviez
non.
Vous inquiéter.
Mais j'étais persuadé, je me disais ouais. Que ça prendrait le temps que ça prendra, mais il fallait juste que je tienne le coup et qu'un jour, j'arriverais à devenir auteur de BD. J'étais
ah
certain
oui.
Que ça marcherait, oui.
Riyad Sattouf, pas de doute, d'une certaine manière, vous n'aviez pas de doute.
Non, mais après, c'était la seule chose sur laquelle je ne doutais pas. J'avoue, je me disais, je vais réussir à faire un jour une bande dessinée qui sera acceptée par un éditeur. Voilà, et ce jour est arrivé, et je me rappelle voilà, du jour où je suis allé signer mon contrat chez Dargo. Donc, je m'étais acheté une veste chez H&M, qui était très très moche, trop petite d'ailleurs, mais je me disais, je vais avoir l'air beaucoup plus sérieux en arrivant chez Dargo. Là, il faut savoir que les éditions Dargo, à cette époque-là, étaient situées dans un quartier de Paris, tout au nord de Paris. Il fallait traverser une sorte de zone un peu effrayante, où il y avait beaucoup de personnages que j'aurais pu dessiner. Et je suis passé avec ma veste comme ça, et à toute vitesse, en me disant, si je m'arrête, je me fais agresser, je pourrais jamais signer mon contrat.
Je vais me faire dépouiller.
Donc je courais un petit peu pour me dépêcher à aller chez Dargo, et je suis arrivé dans le bureau. Voilà,
avec là, votre veste.
Avec ma veste. Et il y avait Guy Vidal, il y avait deux autres éditeurs aussi de chez Dargo qui étaient là, qui d'ailleurs avaient refusé mon projet les deux fois avant, et qui là l'acceptait parce que Guy Vidal l'avait accepté. Et donc il m'a dit, c'est super, bienvenue chez Dargo. Hein. Et puis voilà, tu vas toucher 45 000 francs. Pour moi, c'était absolument gigantesque. Je trouvais que c'est vrai que c'était super bien payé. Et donc j'ai signé mon contrat, je suis ressorti, je me rappelle, j'ai remonté la rue de chez Dargo en courant, comme ça, en étant complètement transporté.
En l'air, quoi.
Ouais,
en...
mais vraiment, c'était incroyable. C'était vraiment le plus beau jour. Je n'ose pas dire que j'étais en érection, mais je le dirais presque. Mais j'oserais presque le dire. Je suis désolé pour ce mot, mais c'était vraiment le plus beau jour de ma vie.
Alors en fait, le 7 juin 2002, une très belle érection, c'est ça, votre journée particulière, en signant votre premier
c'était
contrat chez Dargo.
C'était l'érection de ma carrière aussi, l'érection de ma vie à venir, c'était vraiment...
l'érection avec un E majuscule.
J'avais attendu ça toute ma vie, voilà. J'étais...
En 2002, on écoutait un peu partout ce remix d'Elvis Presley. Start walking. Monsieur Elvis, il a une place dans votre imaginaire, dans tous ces personnages comme ça?
Pas tellement, non. J'avoue que j'ai jamais trop écouté Elvis Presley. Il y a quelques chansons que j'aime bien quand même, mais c'est des chansons un peu tristes.
Ouais.
Toutes ces chansons un peu rock qui étaient... Non, je ne suis pas sensible tellement à Smith.
Et à ce monsieur. Donc le 7 juin 2002, c'est votre journée particulière, Riyad Satouf. Ce jour-là, vous signez pour la première fois un contrat d'auteur complet pour la BD Les Pauvres Aventures de Jérémy. Un an plus tard, en 2003, Riyad Satouf, vous receviez le prix Goscinny pour ce premier tome des aventures, des Pauvres Aventures de Jérémy. C'était pour Les Jolis Pieds de Florence. On n'a pas beaucoup parlé de Florence, mais c'est la fille dont t'es amoureux, Jérémy, et qui, quand il arrive enfin à rentrer dans son lit, elle lui avoue qu'elle est frigide. Et donc, il part à la recherche de l'orgasme féminin. C'est ça, l'histoire.
C'était un petit peu ça, le pitch. Bon, je pense aussi que ce pitch explique pourquoi ça n'a pas tellement marché comme bande dessinée, et que voilà, c'est pour ça aussi que cette première journée a été importante, parce que ce premier contrat était important, parce que c'était à la fois osé d'accepter un tel projet et qu'il a été déclencheur d'énormément de choses, en fait.
Alors, ce prix Goscinny, il était doté, vous avez...
Oui, c'était... Alors, on était passé à l'euro à l'époque.
Ouais, depuis...
C'était 5000 euros.
C'était
énorme. Et c'était une somme colossale. C'est-à-dire, j'avais sur mon compte 5000 euros, j'étais le roi du pétrole.
Et là, votre vie a changé?
Ben, je me rappelle que je m'étais acheté un jean chez Levi's.
Après H&M, vous êtes passé à Levi's, ouais, vous êtes monté
catégorie. Et j'avais invité des copains au restaurant, est allé à une pizzeria, j'avais payé tout le monde. C'était vraiment le truc absolument... Non, mais c'était génial en même temps, c'était incroyable. Quoi.
La
c'était,
pizzeria et le chinois.
J'avais jamais eu autant d'argent sur mon compte. D'ailleurs, je pense même dans ma famille, ma mère... J'avais quitté ma mère il y a quelques temps, ça faisait quelques années. On n'avait jamais eu autant de... C'était... Et en plus... Le trophée était une sculpture d'une de mes grandes idoles, c'était de Philippe Drouillet.
Ouais.
Donc moi j'ai une petite sculpture de Drouillet chez moi, je la regarde tous les jours. C'est...
Bon alors, votre vie changeait, hein, Riyad Satouf. En 2002, votre vie a basculé. 2002-2003, ça pomme.
Exactement, oui, c'est vrai. C'était vraiment le moment où tout a commencé pour moi. Je dois admettre que voilà, c'est vraiment parmi les plus belles années de ma vie, parce que c'est les années les plus encourageantes en fait, tout restait à faire.
Riyad Satouf, vous reconnaissez ce qu'on vous fait entendre?
C'est Chaplin?
Non,
c'est Fellini.
Ouais.
Oui, voilà, je suis...
Amarcord.
Amarcord, bien sûr. Ouais, j'étais en 2002, là, je repensais
à ces
années.
Ouais, vous pensiez à quoi?
J'étais en train de repenser à quand je me suis mis en atelier, justement, avec Blin
et
Sfar et Sapin, et que je m'étais mis à démarcher à fond les éditeurs et que ça marchait pas du tout. Et je repensais justement à cette journée particulière. Mais oui, à Marcord, et film légendaire.
Qui compte pour vous, Riyad Satouf?
Oui. Oui, je l'ai vu très très jeune. Et c'était une représentation de la jeunesse et de souvenirs de jeunesse qui a été capitale, parce que Fellini montrait tout ce qu'il y avait dans la vie d'un enfant, par exemple, mais y compris des choses pas pour enfants du tout.
Comme les fesses des femmes
les
sur les vélos.
Les fesses des femmes, ou le corps des femmes, ou le grand-père complètement fou qui est obsédé, etc. Enfin, moi, ça me rappelait des souvenirs. Je me disais, mais c'est vrai qu'il est possible de raconter des histoires comme ça. Il y avait Amarcord et les 400 coups de Truffaut aussi, qui étaient des représentations d'enfance qui m'ont éveillé à peut-être penser à ma propre enfance ou à mes souvenirs d'enfance et à me dire que c'était possible
d'en faire
des histoires, ouais.
C'était ça ma question, parce que c'est vraiment ça, là, c'est une évocation de l'enfance magnifique, avec ce curé aussi. Vous vous rappelez de ce curé d'Amarcord qui, à chaque confession, demande « Est-ce que tu te masturbes ?
Ah, oui,
est-ce
oui,
que
oui,
tu
oui,
te
oui.
touches ?» Avec cette folle un peu hystéro, cette blonde voluptueuse, et puis la plus belle, la Gradisca, c'est ça, hein?
Oui.
Et je me disais, ça a dû vous inspirer aussi pour vous dire que vous pouviez faire, peut-être, comment on fait de sa vie, de son enfance, de son adolescence, conscience de ses obsessions, de ses frustrations, comment on en fait le matériel de sa création.
Disons que, avec les souvenirs que j'avais de ma vie en Syrie, etc., j'avais le pressentiment qu'il y avait beaucoup de personnages qui pouvaient être intéressants à montrer. C'était comme une aventure avec toute une galerie de personnalités bizarroïdes, etc. Mais je savais pas exactement comment les agencer sans être trop dans le pathos ou sans être trop dans l'humour. J'arrivais pas à trouver la bonne distance. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me rappelle bien de tous ces films qui montraient les choses juste crûment, en fait, sans avoir peur de choquer qui que ce soit ou sans avoir peur d'être trop ou voilà. C'est vrai que montrer un enfant qui regarde le corps d'une femme, c'est très provocateur, en fait. Il y a quelque chose de très osé et en même temps c'est tellement réel, en fait. Voilà, c'était très libérateur.
2019, la guerre mondiale nucléaire est terminée.
Ici XJW, à vous. Est-ce que vous me recevez? Répondez, à vous. Ici XJW, à vous. Je vous reçois. Est-ce que vous me recevez? À vous. Je capte quelque chose. Des gens sont encore en vie. C'est un émetteur.
Si tout pouvait recommencer comme avant cette horrible guerre.
Il y a de ça tout.
Alors, je reconnais pas.
C'est Les Nouveaux Barbares.
Ah, mais non, mais je connais pas ce film.
Bah, c'est pas un des films qui vous a inspiré. C'est des films post-apocalyptiques italiens.
Ah oui, mais alors, oui,
c'est
ça. Non, mais tout à fait.
Qui
mais
vous
alors...
ont inspiré pour votre personnage de Pascal Brutal.
Non, mais vous avez raison. Mais en fait, ces films, je les voyais en doublé en arabe, en Syrie. Et donc, ça s'appelait pas forcément Les Nouveaux Barbares. Alors, c'est vrai que voilà, j'ai regardé énormément de films post-apocalyptiques. Mais en Syrie. Voilà.
Mais là, la musique, les
sons... Ah oui, bien sûr.
Sons,
j'allais dire Mad Max, parce que de toute façon, c'est un univers de films qui avait été déclenché par Mad Max. Et Mad Max 2, de George Miller, donc, qui sont deux immenses chefs-d'œuvre du cinéma, selon moi. Et donc, il y avait eu énormément de sous Mad Max. Et Les Nouveaux Barbares, oui, je le connais pas exactement. Peut-être que les images, je pourrais le regarder, mais je voyais tous ces films dans un vidéoclub à Homs.
Ouais.
Que mon père louait des films, il pensait que c'était pour enfants. Et voilà, ça se passait dans des mondes détruits par des apocalypses nucléaires, avec des barbares qui s'en prenaient aux femmes seules et aux hommes qui essayaient de s'en sortir en les découpant, etc. Mais cet univers-là, voilà, c'était mes personnages d'enfance.
Et ça vous a inspiré pour Pascal Brutal, un
oui,
beau
oui,
personnage, parce que c'est aussi dans le, c'est une BD dans le futur. On est dans une France ultralibérale qui est gouvernée par Madelin. C'est ça, hein?
Oui, c'est ça, tout à fait. Non, Pascal Brutal, c'est un personnage que j'ai créé quelques mois, en fait, après avoir créé les aventures de Jérémy, parce que Fluide Glacial, qui était à l'époque dirigé par Albert Algou, recherchait des nouveaux projets et il était venu à notre atelier. Il nous avait dit à Sfar, Blin, Sapin et moi, bah, si vous voulez, proposez-moi des trucs, etc. Et donc, moi, je lui ai tout de suite proposé Pascal Brutal, donc une sorte d'homme méga viril.
La nouvelle virilité.
Je voulais me moquer des gros balèzes, je voulais me moquer des personnages testostéronés, comme ça. Je trouvais qu'en France, on n'avait pas l'équivalent d'un Schwarzenegger ou d'un Stallone, ouais, ou d'un Van Damme ou d'un Dolph Lundgren. Il n'y avait pas le français, en fait, comme ça.
Et Pascal Brutal, voilà, c'est ça.
Je me suis dit, je vais créer le musclos français et je l'ai placé dans un futur, comme ça, où toute la France, tous d'élite, plus rien ne va, les gens se renferment sur leur communauté mutuelle, etc. Et c'était en 2002-2003. Et en fait, je n'arrive plus à la dessiner parce que le monde actuel est devenu bien pire que ce que je décrivais.
La France est bien plus libérale que ce que vous dites. Et les rapports entre les gens se sont encore plus dégradés, hein.
Oui,
c'est
oui.
bien ça. Alors, Pascal Brutal, il a ça. Alors, moi, je vous avoue que j'adore. Il a du poil aux pattes. Il est les pattes écartées. Il est toujours prêt ou à baiser ou à mettre un coup de poing. Ou à casser la gueule à quelqu'un. Il a sa gourmette où il y a écrit dessus Pascal. Ses baskets torsion, c'est ça?
Oui, c'est un, voilà, il est défini par des choses très très simples.
Les attributs de sa virilité.
Voilà, il a des baskets torsion en 1992.
Voilà,
et une coiffure rasée comme ça et une petite gourmette sur laquelle est gravé
Pascal.
Le mot Pascal. Donc c'est un homme libre. Il va de femme en femme.
Aussi avec les hommes.
Et de temps en temps sans faire exprès avec un homme. Mais voilà. C'était l'idée que c'était un personnage sexuel. C'est-à-dire qu'il, une sorte de condensé de libido une force primale, voilà.
Et c'est réussi.
Ben, je ne sais pas, c'est vrai qu'il a, il a quelques fans quand même. Souvent en dédicace, maintenant les gens viennent me voir en me demandant avec Pascal, quand est-ce qu'il revient ? Alors c'est ce qui est très drôle, c'est que j'ai abandonné ce personnage il y a quelques années et j'ai fait l'Arabe du futur et les Cahiers d'Esther,
ouais.
Et qui ont eu beaucoup plus de succès que toutes les bandes dessinées que j'avais faites avant.
Ah, ouais.
Et donc, je rencontre très souvent, par exemple, les petites mamies qui viennent me voir et qui me disent « Oh, j'ai adoré l'Arabe du futur et les Cahiers d'Esther. J'ai acheté... je me suis dit, qu'est-ce que je peux acheter d'autre ? J'ai acheté Pascal Brutal. Alors, je ne vous cache pas que c'est un petit... Ce n'est pas tellement mon genre. Hein, c'est un peu grossier. Parce que c'est vraiment complètement autre chose. C'est-à-dire, Pascal, il y a des gros mots partout. Il couche partout. Il vit des aventures complètement déglingos. Et pareil pour le lecteur de Pascal, il y en a souvent qui me disent « Oh, moi, l'histoire de la petite fille, là, c'est un peu bizarre, là. Quand est-ce que vous refaites un Pascal, là, nous, on veut de la baston. » C'est pas le même, c'est pas les mêmes tribus. Mais ça, c'est marrant.
En fait, ça, c'est ceux qui vous demandent du Schwarzy, quoi. Qui veulent du Schwarzenegger.
Ouais, puis il y a... Mais c'est vrai que c'est drôle quand je regarde les bandes dessinées que je faisais plus jeune. Je crois que comme j'ai jamais fait de crise d'adolescence...
Ah bon ?
Jamais. J'étais complètement introverti, je dessinais. Je crois que j'ai dû la faire dans mes bandes dessinées.
J'avais Est-ce envie là, vous de... la faites, là, avec Pascal Brutal, le gros balèze?
J'avais envie de choquer les gens, je sais pas, de faire des histoires qui pouvaient dégoûter ou exciter, ou je sais pas. Il y avait...
Mauvais garçon, j'étais, quoi.
J'étais ado dans mes bandes dessinées, en fait.
Ah oui.
Je l'analyse comme ça, peut-être, maintenant.
Bon, très bien, vous dites ça très sérieusement, alors je vous crois, il y a très tout. C'est la bande originale de Conan le Barbare au début des années 80, Riyad Satouf. Mais en fait, c'est un prétexte. Je voulais parler avec vous de Schwarzenegger.
Ouais.
Parce que je voulais parler de la virilité. Il y avait eu Pascal Brutal. Et moi, je voulais parler de Schwarzy. Et grâce à vous, j'ai découvert des choses sur Schwarzenegger. Et je sais que vous l'aimez particulièrement, mais pas seulement pour le gros bras, quoi.
Non, je l'aime pour tout. Je l'aime pour tout. Et j'aime beaucoup le personnage, en fait. Disons que... C'est quelqu'un qui a une enfance difficile, etc. Il a, son père le battait. Son père était nazi. Et son père le battait, etc. Et donc, il est devenu champion de musculation pour fuir sa famille, fuir sa vie en Autriche. Et je suis touché par le personnage, le fait qu'il ait fait de la politique après, qu'il était, en plus, il était républicain, ça me faisait beaucoup rire. Enfin, je sais pas comment.
Ouais.
Il était, c'était un Américain venu de l'extérieur, de droite. En fait, je sais pas comment. Et maintenant, il est contre le président Trump. Il fait plein de trucs pour l'écologie, etc. Enfin, son parcours est un parcours que je trouve émouvant. Enfin, je sais pas.
Il y a vous saviez que son père trouvait qu'il était trop efféminé, qu'il
oui,
faisait
oui,
pas
oui.
assez garçon,
exactement.
Et qu'il était pas assez intéressé par les filles.
Et ce qui est drôle, c'est que il est devenu extrêmement musclé.
Ouais.
Mais je trouve qu'il n'est Il n'a jamais réussi à être ce que j'appellerais viril. C'est quelqu'un d'extrêmement balèze, mais qui est très beau à regarder. Moi, je trouve qu'il a un côté féminin. Enfin, je sais pas comment. En effet, qu'il a jamais réussi peut-être à perdre dans son. C'est pas ce que j'entendrais par la pure virilité.
C'est pas Pascal Brutal.
Non,
pour vous, il est féminin, Brutal, Schwarzy.
Un peu, ouais. Mais j'aime beaucoup son parcours, sa volonté, le fait qu'il ait jamais abandonné, qu'il fasse des. Je sais pas. Même aujourd'hui encore, je suis sur Instagram, là je passe, mais c'est marrant que vous disiez ça, je regarde tous les matins des petites vidéos d'Arnold Schwarzenegger jeune, où il dit des trucs, où il fait des... J'en ai encore vu une ce matin, là, avant d'arriver. Sa voix est hyper agréable, où il a une voix très douce.
Alors vous savez qu'il a chanté aussi ?
Ah non, ça je savais pas.
Alors écoutez. Hey, I'm Arnold Schwarzenegger, listen carefully. Dig deep down and ask yourself, who do you wanna be ? Not what, but who, if you believe success will come to you. Work like hell, trust yourself and all your dreams come true. Break some rules, not the...
Alors non, ça c'est pas lui qui a chanté, c'est qu'en fait c'est une liste de conseils.
Ah si, c'est lui. Ah, ça, c'est
en fait
lui.
Ça a été remixé par quelqu'un. Il a fait une liste de conseils pour réussir sa vie. Et ça c'est la liste lors d'une conférence. Je pense qu'ils ont repris ce qu'il dit, ils l'ont fait avec un autotune et ils l'ont fait en chanson.
Pourtant, là, on le voit sur le clip, je vous montre.
C'est lui qui chante.
C'est lui qui chante. Mais ça, c'est des conseils qu'il donne.
C'est, ouais,
et c'est quoi les conseils
Work
pour...
like hell. First of all, trust yourself. How many times in life did you heard you can't do this, you can't do that? And each time you said I can't do this, I've been so happy to be the first one to do this. If I succeed, j'adore. Il donne des grands. J'adore. C'est, je regardais ça quand j'étais jeune. J'adorais ça.
Mais vous le faites un peu avec l'accent arabe, hein, sans vouloir vous vexer.
Non,
un peu, un chouïa, chouïa.
Vous trouvez?
Ouais, un petit peu.
Ah bah c'est ça. Bah c'est peut-être.
Et mais c'est vrai qu'il vous aide dans, c'est vrai qu'il peut vous aider dans, il vous a aidé dans les moments difficiles de Schwarzenegger.
Ce que j'ai adoré avec Arnold Schwarzenegger, c'est que là, il devient, il est très aimé maintenant. Il y a des gens qui font des livres d'intello sur lui, sur ce que, sur sa carrière, sur son. Et à l'époque, c'était vraiment le héros de la, de l'entertainment, en fait. C'est-à-dire, dès qu'un film sortait avec Arnold Schwarzenegger, tout le monde allait le voir. Parce qu'on était certain que ce serait un super film divertissant, puissant, mais il a quasiment jamais, j'ai pas en souvenir qu'il ait fait un film d'auteur, par exemple. Alors qu'il aurait très bien pu essayer, mais il était dans l'excès, je sais pas, il représentait quelque chose d'excessif. Ouais, je pourrais pas dire autrement. Maintenant, il est âgé.
Ouais, il est assez
âgé. Il organise des trucs, il fait des sketchs, il se moque de lui-même, il a de énormément d'autodérision, c'est très marrant. Il a jamais perdu son accent. Who do you want to be? C'est quand il donne des conseils pour aller à la salle de sport et tout. How many sit-ups did you do? Trust yourself. Find your motivation. Je l'adore.
Mieux vaut ne penser à rien que de pas penser du tout. Rien, c'est déjà rien, c'est déjà beaucoup. On ne se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits rires qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits rires que j'ai mis bout à bout. Ces petits rires qui me venaient de vous. Pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous? Tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Riyad Satouf, c'est Angélique Kidjou qui reprenait cette chanson de Serge Gainsbourg. Et on pensait que ça vous allait bien aussi, cette forme de nostalgie, de... Peut-être de tristesse, de...
Non, mais c'est gentil, oui, oui. C'est vrai que c'est très joli. C'était en 2002, ça.
Ouais, ouais, c'était en 2002, c'était une reprise de 2002.
J'écoutais pas du tout ce genre-là, oui, c'est vrai.
Bah non, en 2002, vous écoutiez quoi?
Sepultura, Metallica, Slayer. J'étais dans le death metal, là, moi, je
Votre crise d'adolescence enfermée au dernier étage, c'est ça?
Au rez-de-chaussée.
Au rez-de-chaussée, ah, pardon. Pas de lumière, donc.
Pas de lumière, absolument pas. Jamais.
Donc, 2002, on y revient, c'est votre année. Cette année-là, donc le 7 juin, vous signez votre premier contrat d'auteur complet. Quelques mois auparavant, le 14 février 2002, au JT de France 2, les journalistes se penchaient sur la langue des jeunes.
La langue française maintenant et ses évolutions, connaissez-vous le parler jeune? Si on vous dit ça déchire, il y en a grave marre, ça me fait kiffer. Eh bien, le mensuel Phosphore consacre un numéro à ce langage des cités, digéré et plus ou moins établi, qu'on entend maintenant dans presque tous les lycées. Éléonore Gay, Caroline Boiteau.
Un mélange d'anglais, de verlan, ajoutez un soupçon d'arabe ou de mots africains, vous obtiendrez le langage des jeunes. Un exemple, comment parle-t-il d'argent?
Ça peut être de la maille, Le genre.
Le genre.
Pesos. Voilà.
Et du bifton.
Ouais.
Difficile à décrypter pour les plus de 25 ans.
Si je vous dis j'ai de la maille, vous comprenez quoi?
Le tricot.
La moutarde, maille.
Les mots tordus, inversés, transformés viennent souvent des cités. Foin des poèmes à trois sous, aujourd'hui voilà comment on s'exprime quand on est amoureux.
Ouais, je la kiffe.
Ouais, je la kiffe.
Ouais, je la kiffe bien.
Je suis love.
Ouais.
Elle déchire.
Elle déchire aussi.
Elle déchire, ouais.
Ouais. Elle cartonne.
Elle fracasse.
Attention tout de même, avec de tels compliments, pas sûr que vous la fassiez rêver.
Alors, attention tout de même, avec de tels compliments, pas sûr que vous ne la fassiez rêver. Que pensez-vous de ce ton pour parler de la langue des jeunes, Riyad Satouf?
C'est très, très drôle, surtout de voir comment tout a évolué, à la fois la langue des jeunes et le ton des journalistes,
ah oui.
Qui est aussi... C'est vrai qu'à cette époque-là, ils parlaient un peu comme ça, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, ça a changé quand même.
Bah oui, oui, c'est plus du tout ça.
Non.
Aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'en fait, vous écoutez très bien.
Je ne sais pas si j'écoute bien, mais c'est vrai qu'on se rend compte à quel point... Là, vous avez passé plusieurs extraits. Il y avait le journaliste, les journées sur la bande dessinée, c'était dans les années 70 ou
60.
60. On entend le ton officiel, en fait. Là, on entend le ton officiel des années 2000. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout l'évolution du langage. C'est quelque chose de très rigolo à observer. Si vous écoutez aujourd'hui, par exemple, Aya Nakamura... Vous avez le futur de la langue française un petit peu. Et quand on entend les discours des journalistes, par exemple des télés qui ont été amenés par toutes les télés de la TNT,
ouais.
Tous les trucs sur Énergie 12 et tout, ouais. Le parler des jeunes. Enfin, ils ont une espèce de truc très mou. Enfin, je sais pas, il y a une mollesse générale qui se met.
Que vous remarquez, que vous entendez.
Oui, moi je trouve.
Moi je trouve que vous avez une oreille extraordinaire. Vous êtes un observateur, mais vous avez une oreille, vous écoutez particulièrement bien. Et je me demandais si c'était la langue qui vous inspirait pour dessiner. C'est à partir de la langue que vous commenciez à dessiner.
Bah oui, c'est vrai. Alors je crois que le fait que j'écoute bien vient d'un réflexe de survie. C'est que j'étais obligé de savoir si les mecs qui me parlaient avaient envie de me casser la tronche ou d'être mes amis. Et donc, c'est vrai quand on me disait, excuse-moi, Hey, gros bâtard, viens là, t'as du genre là, fais voir là. Voilà, moi c'est comme ça qu'on me parlait souvent. Donc je me disais, mais si on dit, oh, excuse-moi, là ça a l'air plus sympa, c'est plutôt excuse-moi, tu sais par où on va. Et j'étais obligé. Ou alors, monsieur, s'il vous plaît, vous venez là. Là, et en fait, on est obligé de décrypter dans les intonations des.
Là, c'est l'intonation.
Par exemple,
ouais.
Un éditeur qui vous refuse un projet.
Alors,
oui, bonjour, on a reçu votre projet, alors ça ne va pas du tout avec notre ligne éditoriale. Voilà, désolé. Merci, mais vous pouvez nous envoyer vos autres projets, bien sûr. Hein? Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on est obligé d'analyser, d'écouter, d'entendre. Est-ce que quand l'éditeur dit ça, est-ce que ça veut dire qu'il est vraiment sincère et qu'on peut vraiment lui proposer d'autres projets, ou est-ce qu'il nous met sur une voie de garage? Est-ce que quand le mec vous dit excuse-moi, est-ce qu'il va... Voilà, moi, ça s'est construit plutôt comme ça, en fait, mon envie d'observer l'extérieur.
Oui, c'est pas une envie de caractériser comme ça des archétypes de langue
non,
en
non,
fonction
non.
Des tribus.
C'est des gens que j'ai rencontrés, voilà, et qui restent gravés dans ma tête parce qu'ils m'ont fait une impression. Voilà. C'est vrai que, par exemple, avec les cahiers d'Esther, c'est un petit peu la même chose. La jeune fille, elle a une façon de parler... je l'entends dans ma tête, en fait. Je peux reconstituer des dialogues qu'elle ferait... En imaginant ce qu'elle dirait.
Oui, vous entendez
voilà.
Dans votre tête.
Ouais,
et
voilà.
on l'entend quand on vous écoute, que vous entendez dans votre tête.
Ben, j'espère. C'est vrai que c'est ce que j'essaie de faire dans mes bandes dessinées. J'adore essayer de retranscrire le langage parlé, l'évolution des langues, etc. C'est de la langue française, notamment, quand on entend la façon dont il parlait dans les années 60, quand on entend Truffaut qui parle de son travail. Le cinéma, c'est avant tout une actrice et une caméra. Enfin, il y a une... Ça va très très vite en fait, voilà. C'est vrai qu'il y a quelques temps, je rencontrais Alain Rey et je lui demandais comment on parlait, par exemple, à l'époque de la Révolution française, comment la voix était...
Placée ?
Oui, puis quel accent avaient les gens en fait. Et il m'a expliqué que le vrai français de cette époque-là, qui était considéré comme vrai français, tout le monde roulait les R. C'était « Bonjour madame, comment allez-vous ? » C'est un peu quand on se moque des très très grands bourgeois aujourd'hui.
Avec la patate chaude dans la bouche.
Avec la patate chaude dans la bouche. Et que le bas peuple et les gens un peu...
De basse.
Parlait comme nous. Il faisait des R comme ça, comme le président de la République aujourd'hui. Donc voilà, ça se trouve dans le futur, le président de la République, il parlera comme parle ce qu'on considère aujourd'hui comme être le mauvais français. Wesh, les Russes, ils nous ont saoulés là. Alors, ça se fait pas, franchement, ça se fait pas d'amener les chars à la frontière. Alors moi, j'ai été vénère en tant que président. Wallah, je vais les défoncer. Mais en fait, tout le monde écoutera, ouais, elle a bien parlé, mais c'est un peu trop précieux. On sait pas.
On comprend moi, pas je, ce qu'il dit, il parle
moi,
trop bien.
J'adore la façon de voir comment les... comment la langue évolue et comment à chaque époque on se dit « Ah, oh, c'est la fin de tout, plus personne ne parle le vrai français !» c'est marrant, quoi.
Alors, Yatsatouf, écoutez encore une autre langue qui peut vous faire sourire. Alors, une langue qui parle de la puberté.
Voici la troisième série de nos conseils aux parents pour l'éducation sexuelle des enfants.
Dans nos deux précédentes émissions, nous avons entrepris d'expliquer pourquoi il convenait de présenter aux filles et aux garçons les réalités de la vie sexuelle.
Et je poserai une première question. Qu'est-ce que la puberté, docteur Logre ?
Eh bien, la puberté, c'est un mot qui vient de pubis et qui, en effet, tire son nom des poils du pubis. C'est le moment de la formation. C'est le moment où apparaissent les poils, c'est le moment où la voix mue. C'est le moment où apparaissent les commencent à pousser les seins chez les petites filles et où va apparaître la menstruation.
Bon, maintenant vous.
Il y a autre chose qui apparaît aussi. Je viens d'indiquer le côté physique.
Oui.
C'est le côté psychique.
C'est ce que j'allais vous demander.
À ce moment-là apparaît en relation avec la fonction sexuelle commençante l'appétit sexuel, le désir.
Oui.
Et c'est par conséquent une date solennelle dans la vie sexuelle de l'enfant, c'est cette apparition au fond du désir sexuel.
C'est une archive du début des années 50 sur la puberté. On est loin de votre Manuel du Puceau.
Oui, après Manuel du Puceau, c'était une blague. C'est pas un vrai Manuel. Mais ça, c'est génial comment il parle sexuel. Il tire sur le L. C'est assez marrant.
Alors une autre langue, celle d'aujourd'hui, avec Esther. Votre petite Esther, qui est grande maintenant, qui est presque une ado, une pré-ado.
Oui, elle a 13 ans.
Elle a 13 ans.
J'ai commencé à faire cette bande dessinée quand elle avait 9 ans. Donc l'idée est de la suivre jusqu'à ses 18 ans. Donc en effet, elle est entrée de plein fouet dans l'adolescence. Elle se sent pas très bien dans son corps. Elle a de l'acné. Enfin, c'est quand même des passages obligés, quoi. C'est assez rigolo. Moi, je me disais peut-être qu'elle avait commencé son enfance en étant quelqu'un de très populaire. Elle était considérée par les autres comme très jolie, elle était très sûre d'elle. Et là, j'avoue qu'on est en train de prendre conscience de certaines réalités. Donc c'est assez agréable à observer, je dirais.
Mais elle a une langue succulente. Moi, j'ai une fille de son âge qui se reconnaît absolument dans Esther et dans cette langue. On en écoute un peu. Votre bande dessinée a été... C'est vous qui l'avez animée.
En fait, elle a été adaptée en dessin animé.
Ah, voilà,
oui,
c'est ça.
Oui, je l'ai co-réalisée avec Mathias Varin. C'est une série qui passe sur Canal+, qu'on peut regarder d'ailleurs sur Internet, je crois, gratuitement.
Et qui est plutôt très bien faite, je trouve.
Merci.
Est-ce que vous comprenez les garçons ? Parce que moi je comprends pas du tout. Pourtant, je suis assez sensible comme fille. Par exemple, aujourd'hui on était avec Eugénie et Cassandre et on parlait de Violetta. C'est juste la meilleure série du monde. On venait de voir un épisode. Oh, il a blessé Violetta dans sa confiance.
Ouais, c'est fichu là, t'as vu comment il lui a parlé ? Oh mais quel gros bâtard !
Et là, on voit la maîtresse qui est très 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 moche, qui court vers trois garçons. Louis, mon ancien mari, Maxime, un beau gosse de l'école, et Abdou, un CM2 qui est très sympa, des fois.
Eh, qu'est-ce que vous faites ? Les portables sont interdits dans la cour là.
Ah, qu'est-ce qu'il y a, madame ? On essaye d'aller sur YouPorn, c'est tout.
En fait, il s'était moqué d'elle. La maîtresse, elle a fait une tête tellement bizarre...
Attendez,
si c'était le truc le plus grave qui existait qui venait de se passer. Et c'est quoi YouPorn ?
Ah, je sais pas ce que ça doit être un jeu iPhone, un truc comme ça.
Et c'est quoi YouPorn, madame ?
Ah non, Esther, tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein ? C'est bon.
YouPorn. Qu'est-ce que c'est que YouPorn ? Excusez-moi, je peux poser une question ?
Mais bien sûr, ma petite chérie.
Sinon, est-ce que quelqu'un de vous sait ce que c'est YouPorn ? Mon père, je l'aime d'amour. Il m'a dit qu'il savait pas ce que c'était YouPorn. Il veut pas me dire, ouais.
Hey, Esther, faut que je te dise un secret, wesh. J'ai été voir YouPorn hier sur mon téléphone, wesh. Et en fait, c'est un site où il y a que des vidéos de gens qui sont en train de faire des bébés, wesh.
Eugénie, elle a vu une vidéo d'une fille qui se faisait taper par le garçon pendant qu'il faisait le bébé. C'est trop chelou, franchement. Chelou, ça veut dire bizarre.
Franchement, je suis trop choquée. C'est le truc le plus horrible que j'ai jamais vu de ma vie, wesh, sa mère.
Après cet événement, Abdou, Maxime et Louis, ils se sont fait engueuler par le directeur et leurs parents, ils ont été convoqués. Mais comme ils sont vraiment très très riches, bah tout le monde s'en fiche et les parents, ils payent.
Esther, nous, on va sur YouPorn. Tu sais ce que c'est ?
Ah ouais, YouPorn, c'est bien. Bah, continuez si ça vous plaît.
Ah ouais, YouPorn, c'est bien. En fait, tu connais.
Oh, wesh, mais tu vas en fait.
Oh, Esther, wesh, c'est chaud.
Après, c'était la catastrophe. Tout le monde dans la cour disait Esther, elle va sur YouPorn. Et aussi, apparemment, elle aime bien la cata.
Elle est délicieuse, cette petite Esther. Est-ce que c'est vrai que c'est vous qui avez donné le rythme des... Vous avez enregistré les voix pour les comédiens pour que...
Oui, oui.
Pour
oui,
leur
oui.
donner l'intonation et le rythme.
Oui, 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 j'ai enregistré les voix témoins. C'est-à-dire, c'est la base avec laquelle est faite l'épisode. Mais par exemple, dans le cadre de cette histoire, c'est-à-dire les cahiers d'Esther, c'est à chaque fois des vraies histoires que me raconte une véritable
petite fille.
Et dans le cas de cette histoire, par exemple, c'est l'histoire la plus où j'ai eu le plus de difficultés à que j'ai eu le plus de mal à faire en fait, parce qu'elle m'a raconté cette histoire quasiment mot pour mot, mais c'est pas du tout une histoire pour enfants en fait. Mmh. Et c'est vrai que les cahiers d'Esther, c'est des histoires d'enfants, pas forcément pour enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui le lisent, beaucoup d'ados qui aiment bien le côté sulfureux parce que ça leur rappelle évidemment leur école. Mais voilà, c'était un choix de me dire est-ce que je passe au silence cette histoire qui est quand même extrêmement choquante, mais qui je pense arrive dans et qui a un vrai problème...
Bah, qui a un vrai sujet de société.
Un vrai sujet, sujet de société.
Un sujet de société, parce que le porno est,
voilà,
est très présent dans la vie des enfants.
On a, quand on allume la télé, il y a des interdits au moins de 10, 12 ans, 13 ans partout. On n'a plus le droit de dire un mot, de fumer une cigarette, de faire quoi que ce soit à la télé. Puis sur Google, si vous tapez décapitation, vous avez un milliard de vidéos de décapitation qui apparaissent. C'est vertigineux, en fait. Et c'est vrai que quand Esther m'a raconté ça, elle me l'a raconté comme ça. Donc c'est un peu gravé dans ma tête. Donc c'est vrai que je fais très attention au son.
Vous faites de la musique, d'un seul coup, je me dis, avec une oreille pareille?
Bon, je fais un peu de guitare. J'ai fait de la musique. D'ailleurs, c'est moi qui avais fait la musique. J'ai fait la musique des Cahiers d'Esther. Et j'ai fait aussi la musique de mon deuxième film, Jackie Aurum des films. Mais je suis pas très bon. Vraiment, j'admire trop les musiciens. Il y a un truc que j'ai pas compris en musique, en fait. Je sais pas ce que j'ai pas compris, mais un truc que j'ai pas compris.
Bon, alors voilà, là, je vais vous faire écouter ce que pourrait écouter Esther.
Okay.
Ou ce qu'elle écoutera dans quelques semaines, ça, c'est sûr.
D'accord.
Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. Je sais pas quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma. C'est comme la lune et le soleil qui ferait un combat. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Quelle heure mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes bras. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma. C'est comme la lune et le soleil qui ferait un combat. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Je sais pas pourquoi mettre le réveil quand je rêve de toi. Je sais pas quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras.
Une journée particulière, Zoé Varié sur France Inter.
Riette Satouf. C'est la musique du futur, c'est ça, avec la langue du futur.
Oui, c'est vrai que c'est pas mal, mais alors pas pour les enfants. Hein. Ça, je crois que Esther, elle est déjà au-delà. Hein. Là, j'ai fait une page qui va paraître dans l'Obs, où elle m'a parlé d'un chanteur qui fait l'unanimité dans son collège, c'est Us l'Enfoiré.
Ah, je le connais pas.
Ah oui, mais vous devriez, parce que ces vidéos font 80 millions de vues sur YouTube.
Us l'enfoiré.
Us l'enfoiré, avec Sofiane Fianso pour les intimes.
Ouais.
Et là, c'est autre chose. Hein. Fait même plus de phrases hein, maintenant, Us l'enfoiré. Il dit des mots. C'est à Paris, Neymar, Qatar, voiture très rare. Il faut vous écouter ça. Il faut le passer.
Ah, oui.
Passez-le sur France Inter. Il faut passer Us l'enfoiré. C'est culte.
Ah, mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas su avant. Us l'enfoiré.
Us l'enfoiré.
Mais alors, parce que moi je me disais qu'Esther, justement, elle vous avait un peu reposé de la vie secrète des jeunes et de ce que vous avez pu voir qui vous a désespéré, y compris sur la langue. Mais là, Esther, elle vous rattrape, ça vous rattrape.
Disons que quand je faisais la vie secrète des jeunes, c'était des scènes que j'observais moi-même dans le métro ou dans la rue qui mettaient en. Où il y avait des jeunes qui sont guirlandais ou des parents qui
frappent leur
pas, qui n'étaient pas gentils avec leurs enfants. Et c'est vrai que c'était mon regard. Donc je voyais toujours un peu les mêmes choses parce que c'était ce que je voulais voir, sans doute.
Bien sûr.
Et donc au bout d'un moment, j'étais un peu déprimé, j'avoue. J'ai arrêté. C'était à ce moment-là que je me suis lancé dans les cahiers d'Esther parce que je me suis dit, tiens, je vais la laisser avoir la parole sur sa génération, en fait. Voilà, que ce soit elle qui, pas sa génération, mais son quotidien, elle est beaucoup plus positive que moi sur plein de sujets.
Elle vous fait du bien, Esther.
Oui, et puis elle me change les idées. C'est-à-dire qu'en effet, elle va essayer de voir le bon côté des choses, mais naturellement, sans vraiment se forcer. Elle me parle aussi bien des trucs qu'elle aime bien que des trucs qu'elle trouve nuls.
En 2002, Riyad Satouf, on ne manquait pas de tubes. Et le choix, je vous avoue, a été difficile pour nous. Entre Indochine, Jennifer, Laurie et MC Solar, mais nous, on a choisi ça. Alors,
je connais pas, c'est quoi ?
Calogero.
Ah ! I'm not a big fan, sorry. Oh pardon, faut pas que je dise que j'aime pas trop Calogero. Un celui qui a fait face à la mer, j'aurais pu. Ah ouais, c'est un peu stressant. Ouais.
C'est stressant.
Ah ouais, moi ça me stresse un peu.
Mais
j'ai
vous
l'impression
la connaissez, l'autre chanson ?
J'ai l'impression de faire mes courses au supermarché et que je suis là en train de choisir du café face à la mer avec le mec qui passe avec son caddie et qui. Non, c'est un peu. Désolé.
Alors, une image certainement qui vous a marqué en 2002, c'est José Bové.
Ah bon ?
José Bové se rend à la maison d'arrêt de Villeneuve-les Maglones en tracteur.
En tracteur, ouais, c'est ça.
Hein, c'est parce qu'il a été condamné à 3 mois de prison ferme pour les dégradations du McDonald's de Millau.
Tout sourire, José Bové savoure son dernier pied de nez à la justice. Il s'enchaîne à ses 9 compagnons condamnés pour le démontage du McDonald's de Millau. Il veut être incarcéré avec eux. Plusieurs centaines de militants accompagnent José Bové jusqu'aux portes de la prison. Il est ravi, il a réussi à faire de son incarcération une grande fête médiatique. Lorsqu'il quitte sa maison ce matin, José Bové emporte dans son sac quelques vêtements et des livres sur la mondialisation. C'est en tracteur avec ses compagnons qu'il se rend jusqu'à la prison. Tout au long du parcours, à travers le Larzac, les forces de l'ordre balisent la route et les sympathisants sont de plus en plus nombreux à acclamer le cortège.
J'avais pas noté qu'il allait en prison avec des livres sur la mondialisation.
Mais non, mais moi j'adore José Bové. C'est vrai que j'aime beaucoup ce personnage. Parce qu'en même temps, tout ce qu'il disait à l'époque, sont devenus des sujets de société majeurs. Mmh. Il luttait contre les OGM à une époque où... Moi je me rappelle, j'avais fait un boulot d'été à l'INRA.
Ouais.
L'INRA faisait des plantations comme ça dans un grand champ. Et il plantait à la fois du colza transgénique et du colza pas transgénique. Et il voyait comment les différentes sortes poussaient. Et en fait, c'était des saisonniers, donc des mecs comme moi, qui étaient chargés de prendre les graines de colza OGM et de les mettre dans des petits sachets OGM ou de prendre les graines de soja pas OGM et de les mettre dans des petits sachets pas OGM. Ensuite, ce truc a été replanté.
Ouais.
Et moi, je me rappelle, alors je pense qu'il doit y avoir prescription avec les potes, mais personne...
Vous avez mélangé les graines.
Tout le monde mélangeait les graines. On n'en avait absolument rien à secouer. Les mecs télé, ils étaient payés 500. Et je me rappelle, cette image m'a toujours pourchassé. Je me suis dit, c'était un truc essentiel qui était fait... Et les trucs étaient mélangés. Qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce que après, ça s'est retrouvé dans la nature, etc. Donc c'est vrai que tous ces personnages, par exemple José Bové, tout ce qu'il disait à l'époque était un truc qui aujourd'hui, on dit, voilà, les écoles, elles essayent de faire manger bio les enfants, on veut plus d'engrais, et trucs. Ah voilà, il y a un, c'est vrai qu'il est, je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, José Bové.
Je sais pas, on l'entend plus beaucoup. En 2002, Riyad Satouf, la dessinatrice Rumiko Takahashi, reçoit le prix Shogakukan, qui est le grand prix du manga. Elle est entre autres l'auteur de La Maison Ikkoku. C'était un manga célèbre au Japon qui a été adapté en dessin animé en France. Et cela s'appelait Juliette, je t'aime.
Bonjour. Excusez-moi, c'est ici la pension des Mimosas? Je me trouve bien à la pension des Mimosas, n'est-ce pas, madame?
Ah oui, c'est bien ici, mademoiselle.
On peut vous renseigner?
Eh bien, je me présente. Je m'appelle Juliette et je suis la nouvelle responsable de la pension. Enchantée de vous rencontrer.
À la pension des Mimosas, tout le monde est heureux. Même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Mais elle est arrivée un jour et d'un seul coup l'amour est venu enchanter tous ceux qui l'habitaient.
Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime, vraiment c'est bien toi la plus jolie.
Juliette, je t'aime. Juliette, Satouf.
Ah oui,
Juliette.
Bien sûr, c'était un dessin animé que je regardais enfant et j'étais amoureux de Juliette.
Elle est jolie, ceci dit.
Elle est très jolie et puis mais c'est vrai que c'était une série très romantique. Bon, je pense beaucoup de gens de ma génération ont été très marqués par tous ces dessins animés qui passaient au Club Dorothée. Notamment Juliette, je t'aime, oui, c'était un grand chef-d'œuvre. D'ailleurs, Rumiko Takahashi a eu le Grand Prix d'Angoulême cette année.
Ouais, je sais.
C'est un très grand auteur qui est un des auteurs les plus lus dans le monde. En fait, elle a vendu quasiment autant que.
Vous J.K. lisez Rowling. Des mangas, vous?
Énormément. Ah ouais, j'adore. J'adore la bande dessinée japonaise. C'est des génies, les meilleurs BD. C'est tout un continent. Il y a des auteurs extraordinaires.
Ouais. Et vous êtes allé au Japon?
Oui, j'adore. Je suis allé. Et là, je vais y retourner hein, parce que pour l'Arabe du futur va être traduit en japonais.
Ah oui. Combien il y a eu de traductions?
23.
Ouais, c'est ça, c'est fou.
Et donc là, enfin, mon pays rêvé, là où il y a les auteurs que j'aime le plus, et donc ça sort à la rentrée prochaine et je vais y aller pour la sortie de mon livre. Donc c'est trop génial.
Merci
à vous.
Merci Riyad Satouf d'avoir passé cette heure avec nous. Votre actualité, c'est quoi? C'est les Cahiers d'Esther.
Oui, tout à fait.
Donc, Histoire de mes 13 ans, aux éditions
Alary.
Alary, c'était la dernière journée particulière de la saison. Merci à tous ceux qui ont accepté d'y participer. Merci à Rebecca de Nantes, à Anne Delaveau, à Flora Bernard, à Djoubaka, à Fabrice Desmaz et à tous les techniciens qui ont mixé l'émission cette saison. On se retrouve à la rentrée. Rendez-vous le 1er septembre à 14h pour de belles nouvelles journées particulières. Pendant l'été, prenez le temps de réécouter et de podcaster toutes nos émissions sur le site de France Inter. Passez de bonnes vacances au 1er septembre. Et tout de suite après le flash, comme d'habitude, ce sera Vincent Josse et son grand atelier.